Bonjour, dans le cadre du projet réalisé durant les cours de français, nous, élèves de seconde ASSP, accompagnement, soins et services à la personne,
au lycée La Salésienne de Saint-Étienne dans la Loire, avons participé à des ateliers d'éducation aux médias et à la formation animée par Radio Andenne.
Nous avons travaillé sur le sujet de bientraitance des personnes âgées en institution. Pour en parler, nous recevons David Valentin,
directeur du foyer Résidence Autonomie, quiétude du Chambon-Feugerolles.
Bonjour Monsieur Valentin, pouvez-vous vous présenter ?
Bien sûr, donc je m'appelle David Valentin et comme vous l'avez dit, alors je suis directeur de la Résidence Autonomie quiétude. Avant, les résidences autonomie s'appelaient les foyers logements, mais en 2019, il y a eu une loi qui est passée qui s'appelle la loi SV, qui a réformé les foyers logements en résidence autonomie. Alors pourquoi, je vous le dirai peut-être dans la suite de l'exposé, parce que je crois que vous allez m'interroger là-dessus. Donc je m'occupe effectivement, je dirige la résidence, mais je m'occupe également de la politique gérontologique pour la ville du Chambon-Feugerolles et de tout ce qui concerne les questions du handicap. Ça veut dire que je suis aussi là pour déployer une somme d'actions en direction des seniors qui vivent à domicile, pour que justement ils puissent avoir une vie heureuse et épanouie et qu'ils soient bien traités, puisque j'ai entendu parler de cette notion de bientraitance.
Quel est votre parcours ? Pourquoi faites-vous ce métier ?
Alors j'ai un parcours un petit peu atypique, puisque j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'ai eu mon bac et après j'ai pas fait d'études supérieures. Je me suis un peu laissé endormir sur les bancs de la faculté et j'ai démarré en contrat aidé, ça s'appelait les emplois jeunes. Donc j'ai démarré ma carrière en tant qu'acteur de vie en gériatrie. Donc j'étais entre guillemets animateur, mais bon, ça s'appelait acteur de vie parce qu'il fallait pas créer des métiers sur des compétences qui existaient déjà. Et donc je m'occupais de l'animation à l'hôpital de Firminy sur l'unité de soins longue durée où on accueillait des personnes âgées dépendantes. Et dans le cadre de cet emploi jeune, j'ai suivi une formation et ça s'appelait un diplôme. J'ai passé un DEFA, un diplôme d'état relatif aux fonctions d'animateur. Voilà, ensuite dans mon parcours professionnel pour arriver à la direction, j'ai passé un autre diplôme par le biais de la validation des acquis de l'expérience, donc un diplôme en cours de parcours professionnel, et j'ai passé un café Ruisse qui m'a permis après justement de prendre des fonctions de direction, d'abord sur un accueil de jour et une plateforme de répit pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer que vous connaissez tous, et pour les aidants, avant de prendre des fonctions de direction pour la ville du Chambon, dans la résidence autonomie quiétude.
Qu'est-ce qu'une résidence autonomie et en quoi cela diffère d'un EHPAD ?
Alors la principale nuance et la principale différence entre un EHPAD, alors d'ailleurs le nom va changer, ils sont en train de, parce que un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc ils sont en train de revoir ça. Là, a priori, il y a une nouvelle appellation qui va arriver, mais la grande différence, c'est que dans une résidence autonomie, en fait, c'est pas médicalisé. Alors que, effectivement, toutes les structures d'hébergement médicalisé de type EHPAD, on a du personnel soignant, des aides-soignantes, des infirmières, des aides voilà. Il y a du personnel soignant. La différence, c'est aussi que, du coup, on accueille des personnes âgées qui sont plus autonomes que celles qu'on va accueillir dans les structures d'hébergement médicalisé. Pour donner un exemple, la résidence où je travaille, les gens doivent être capables de se déplacer et de s'orienter tout seuls. Avec ou sans aide technique. Ça veut dire qu'une personne qui vit à la résidence peut avoir une canne, un déambulateur et même un fauteuil roulant. Mais il faut qu'elle soit en capacité de faire ses transferts toute seule, c'est-à-dire se lever de son fauteuil roulant pour s'asseoir sur une chaise ou se lever de son fauteuil roulant pour aller aux toilettes. Donc la principale différence, ça se joue là-dessus parce que finalement les publics, c'est à peu près les mêmes publics qu'on va retrouver, mais c'est pas médicalisé. Ça veut pas dire que les personnes qui vivent à quiétude n'ont pas des aides au quotidien. Il peut y avoir des infirmières qui passent, des aides-soignantes pour la toilette, des aides à domicile pour l'aide au ménage, mais c'est des personnes extérieures à la résidence qui vont venir. Donc c'est des organismes type AIMV, la DMR, des organismes de maintien à domicile, les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile qui vont intervenir, ou les aides-soignantes vont venir apporter une aide pour la toilette des résidents.
Quelles sont les personnes qui travaillent avec vous et quels sont leurs rôles ?
Alors juste une petite parenthèse par rapport à ça, l'État, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a proposé aux résidences autonomie et anciennement foyer logement, d'avoir un forfait soins pour avoir des aides à domicile. Le choix a été fait sur celle que je dirige de ne pas rentrer dans cette démarche-là. Mais c'est pour ça, je vous le dis, il y a des résidences autonomie où vous allez avoir des aides soignantes. Parce qu'ils adhèrent à un forfait soins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est complètement médicalisé. Donc moi, dans mon équipe aujourd'hui, j'ai une personne qui est adjointe de direction, qui prend le relais, ben, là par exemple, maintenant, quand je suis avec vous, pour d'autres obligations. Dans mon équipe, il y a également une animatrice qui s'occupe de proposer des activités à mi-temps, sur la résidence et à mi-temps pour les seniors qui vivent à domicile. Il y a un agent de maintenance. L'agent de maintenance, c'est celui qui va venir déboucher un évier, accrocher un tableau au mur, changer une ampoule dans les studios des résidents, qui va mettre un coup de peinture, enfin qui fait en sorte que la structure elle soit toujours aussi attrayante et qu'elle soit en bon état entre guillemets. Et puis dans mon équipe j'ai 8 autres personnes qui sont sur des rôles ce qu'on appelle agents sociaux. Donc agents sociaux, ça veut dire qu'ils vont faire 3 missions différentes. Ils vont faire à la fois du ménage dans les espaces collectifs et dans les studios des résidents, donc dans les espaces privatifs. Ils vont faire du service en restauration, servir au restaurant à midi pour le goûter. Et puis ils vont également proposer au quotidien des activités, différents types d'activités, mais comment s'appelle résidence autonomie, donc principalement des activités qui rentrent dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie, pour faire en sorte que les anciens, ils restent autonomes le plus longtemps possible. Donc voilà en tout cas comment est composée l'équipe à la résidence que je dirige.
Qui sont les résidents de quiétude ?
Alors, les résidents de quiétude. Bon, déjà, pareil, on parle de personnes âgées. Alors oui, la moyenne d'âge à la résidence, elle doit être à peu près de 85-86 ans. Avec forcément une moyenne d'âge plus élevée chez les femmes que chez les hommes, puisque dans nos structures, il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est amené à se rééquilibrer dans les années qui viennent. Mais en fait, à la résidence, ça va de 62 ans à 100 ans. Donc il y a des personnes qui sont de très jeunes seniors, et puis il y a des personnes qui sont très âgées. Donc finalement, on accueille des personnes très différentes. Et en fait, en EHPAD aussi, on retrouve aussi cette typologie. Une majorité de personnes très âgées, mais on accueille aussi des personnes plus jeunes. Alors c'est souvent des personnes notamment qui viennent du secteur du handicap, parce que les personnes qui ont travaillé toute leur vie en ESAT, vous savez ce que c'est un ESAT, un CAT ? Donc c'est des structures où les personnes en situation de handicap sont accueillies pour exercer un métier. Et ces personnes-là, à partir de 60 ans, elles n'ont plus la possibilité de vivre dans les structures d'accueil et d'hébergement dédiées au handicap, donc elles tapent à la porte des structures et des résidences autonomie. Les personnes jeunes qu'on accueille sont en majorité des personnes qui viennent de ce secteur-là, ou des personnes effectivement qui ont des problèmes psychiatriques et qui ne peuvent plus vivre toutes seules à domicile parce que s'il n'y a pas un étayage, eh ben, elles n'y arrivent plus. Donc voilà la typologie des résidents que j'accueille, une majorité de femmes, 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. Et ça va de 62 ans à 100 ans. Donc pareil, 2 générations différentes. La génération des silencieux, c'est ceux qui ont connu la guerre mondiale et qui ont plus de 80-85 ans aujourd'hui. Et puis les baby-boomers, mes parents. Et oui, donc cette génération qui est une génération bien différente de la précédente, parce que si vous connaissez un peu la génération des baby-boomers, c'est ceux qui ont connu... qui ont connu d'abord pour les femmes, c'est l'émancipation des femmes, c'est le droit des femmes, c'est le droit de vote des femmes. Donc c'est une génération où les femmes ont beaucoup plus travaillé durant leur vie que la génération précédente. Donc voilà. Et puis c'est une génération aussi qui a connu plein de choses, qui a connu la société de consommation, qui a connu la libération de la sexualité. Enfin voilà, c'est une génération qui est finalement beaucoup plus demandeuse et qui est beaucoup plus demandeuse en termes d'activité. Et puis quand vous parlez de bien-traitance et de respect des droits, c'est une génération qui veut faire respecter ses droits, qui les connaît et qui souhaite qu'ils soient respectés. Donc quand vous parliez de bien-traitance tout à l'heure, c'est très important effectivement, encore plus pour cette génération que pour celle d'avant qui était moins à cheval sur ces notions-là.
Quelles sont leurs habitudes ? Quels sont leurs quotidiens ?
Alors le quotidien, il est forcément dicté un petit peu par l'organisation de l'institution, puisqu'il y a des horaires à respecter pour le repas de midi notamment, pour le déjeuner. Mais en dehors de ça, finalement, on met en œuvre ce qui s'appelle des projets d'accompagnement personnalisés. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre avec un projet différent de celui qui est à côté. Donc c'est extrêmement complexe en termes d'organisation. Mais l'objectif, c'est bien celui-ci, que chaque résident fasse un petit peu, en fonction de ses envies, de ses centres d'intérêt, de ses besoins, puisse avoir... sa petite vie personnelle au sein de la résidence. Donc nous, on met en place une organisation qui essaye de respecter au maximum ceci. Donc il y en a qui ont très peu de besoins, très peu d'envie, qui vont participer finalement à peu d'activités, qui sont un peu casaniers. Et puis il y en a d'autres, c'est des grands consommateurs d'activités qui seront présents à de très nombreuses activités au quotidien. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est aussi ça la richesse de ce métier, c'est que quand on arrive à mettre en place cette organisation-là, et finalement c'est génial parce qu'on a plein de personnes différentes, avec plein de personnalités différentes, avec plein de besoins différents, plein d'envies différentes, et c'est ce qui fait la richesse finalement de ce métier, de pouvoir au quotidien vivre avec des personnes très différentes les unes des autres.
Pourquoi sont-ils au foyer quiétude et comment ont-ils eu accès ?
Alors déjà, s'ils sont au foyer quiétude, c'est parce qu'ils ont choisi d'y venir puisqu'aujourd'hui il y a une obligation légale, c'est de, pour chaque personne qui vient à la résidence, je suis dans l'obligation de demander ce qui s'appelle le de vérifier en tout cas le consentement éclairé de la personne. Donc quand on parle de droit et de liberté, c'est fait partie des libertés. Donc la personne, c'est elle-même qui doit décider de venir poser ses valises à la résidence. Donc déjà, ils rentrent, c'est une démarche volontaire. Alors parfois, oui, la famille les incite un petit peu à venir dans la structure parce que, au domicile, ça se fragilise. Alors les principaux motifs d'entrée à la résidence, c'est d'abord l'isolement social. Les personnes, elles viennent à la résidence souvent suite à un veuvage parce qu'elles ont perdu leur conjoint et qu'elles se retrouvent toutes seules à domicile. La deuxième motif d'entrée, c'est la sécurité. Besoin de se sentir dans un espace en sécurité. Et à la sécurité, je le ramène aussi au logement. Le logement qui n'est pas adapté. Par exemple, une personne âgée qui commence à perdre son autonomie, s'il faut qu'elle enjambe la baignoire pour venir aller dans la douche, s'il n'y a pas une douche de plan-pied, ça devient compliqué pour elle. S'il n'y a pas d'ascenseur dans le logement où elle habite. Donc ça, c'est les principaux motifs de rentrée. Et puis le troisième, c'est le rapprochement familial. Ça veut dire que c'est des personnes, effectivement, qui vivaient un peu éloignées de leur famille et de leurs enfants et qui ont besoin de se rapprocher de leurs enfants. Donc elles viennent de façon volontaire et principalement pour ces trois motifs-là.
Vous faites partie de la filière gérontologique Ondenne-Haute-Loire-Nord-Est. Qu'est-ce que c'est ?
Oula, alors c'est... La filière gérontologique, alors c'est des grands mots. La gérontologie, c'est toute la science qui s'occupe du grand âge. Et la notion de filière, l'idée, c'est de travailler tous les acteurs, que ce soit des acteurs sociaux, les centres sociaux, que ce soit les acteurs médico-sociaux, les organismes de maintien à domicile ou les résidences autonomiques comme moi, et puis tous les acteurs du milieu médical. L'idée, c'est de faire en sorte que le parcours d'une personne âgée, il soit le plus fluide possible. Que ce soit par rapport à l'accès aux soins, que ce soit par rapport à tous les temps de prévention. Donc on essaye de travailler ensemble et de construire ensemble une organisation qui facilite le parcours de la personne âgée. Alors c'est compliqué parce qu'on sait qu'en France aujourd'hui, l'accès aux soins, c'est compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la filière, elle permette à chaque personne âgée de pouvoir se dire, moi j'ai tel besoin sur le territoire, en face j'ai tel interlocuteur. Mais l'idée, c'est de travailler ensemble et de ne pas faire les choses de façon cloisonnée chacun de notre côté. Parce que si on les fait de façon cloisonnée, on ne sait pas ce que fait l'autre. Et du coup, on ne peut pas se saisir des offres qui sont proposées par les partenaires. Donc voilà à quoi sert une filière gérontologique.
Pour vous, qu'est-ce que la bientraitance des personnes âgées en institution ?
Alors, la bientraitance des personnes âgées, pour moi, c'est la base. C'est le ciment qui doit être ancré en chacun tous les membres de mon équipe et dans ma pratique. Donc effectivement, la bientraitance, c'est d'abord le respect des droits et des libertés des personnes qu'on accompagne. Par rapport à ça, pour celles et ceux qui sont allés en stage en structure, dans toutes les structures d'accueil, doit être affichée la charte des droits et des libertés des personnes qu'on accompagne. Le droit de choisir qui elle veut comme intervenant. Voilà, il y a une quinzaine de droits et de libertés qui sont listés. Et c'est d'abord ça. C'est ancrer les pratiques sur ces notions de respect des droits et des libertés. Parce que vos droits et vos libertés, vous les connaissez. Si demain, moi, je bafoue vos droits et vos libertés, je pense qu'il y en a un paquet autour de la table qui réagirait. Donc voilà, nous, notre rôle en tant que professionnel, si on veut être bientraitant, c'est d'abord respecter ses droits et ses libertés. Alors par rapport à ça, il y a tout un travail de fond qui est à faire. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des procédures qui sont mises en place. Il y a la Haute Autorité de Santé qui nous donne effectivement des recommandations pour ce qu'ils appellent les recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Et ces recommandations, elles sont là justement pour nous aider au quotidien à construire un environnement, à construire un projet qui permette de respecter les droits et les libertés des personnes qu'on accompagne. Pour vous donner un exemple et pour vous dire que les choses évoluent, la dernière recommandation auxquelles nous avons, les deux dernières recommandations, ça a été l'accueil des animaux de compagnie. D'accord ? Puisqu'aujourd'hui, il y a un texte de loi qui demande aux résidences autonomie, aux EHPAD, d'être en capacité d'accueillir les animaux de compagnie. Et la dernière recommandation, c'est sur la prise en compte de la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. Donc voilà jusqu'où peut s'étendre cette notion de bientraitance, c'est qu'il n'y ait pas de tabou et que tous les besoins et les besoins et les envies exprimées par les personnes qu'on accompagne puissent être prises en compte. Et puis bien sûr, ça passe également par de nombreuses formations. J'en vois régulièrement tous les membres de mon équipe suivre des formations sur ces notions de bientraitance pour qu'au quotidien, ils respectent ces droits et ces libertés qui sont si importantes dans le cadre de l'accompagnement des anciens.
Merci. Avez-vous des choses à rajouter ?
Alors si, ce que je peux rajouter, c'est que c'est un secteur d'activité qui n'est pas en crise. Puisque les personnes âgées, vous savez que la démographie française est en train d'évoluer à grands pas, et en 2050, il y aura plus de 35% de la population française qui aura plus de 60 ans, et 20% qui aura plus de 20 ans. Il y a 20 ans, c'était l'inverse. Il y avait 35% de plus de 20 ans, et 20%. de plus de 60. Donc ça veut dire qu'effectivement, déjà il faut adapter l'environnement global au fait que la population elle vieillit, et puis du coup c'est un secteur d'activité dans lequel il va y avoir des besoins dans l'avenir, parce que ces personnes-là, eh bien, il va falloir les accompagner, les aider quand elles vont vieillir, quand elles vont avoir besoin d'aide technique, d'aide humaine. Et c'est aussi, je pense, pour ça que vous avez choisi cette filière, puisque je crois que vous êtes dans une filière qui est dédiée à, qui peut en tout cas vous orienter vers ce type de public. Donc voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est très gratifiant, parce que quand vous mettez en place un accompagnement réussi auprès de ces personnes, elles vous le rendent mille fois. Voilà. Les anciens, si vous les accompagnez dignement, dans le respect de leurs droits et de leurs libertés, c'est un rayon de soleil. Et moi, quand je rentre le soir chez moi, je suis rempli de tout ce que j'ai pu apporter à tous ces seniors. Voilà, je me dis que finalement, je fais un beau métier. Je fais un beau métier parce que c'est très gratifiant d'être avec eux au quotidien, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, tous en équipe, pour faire en sorte qu'ils soient heureux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, et puis la deuxième chose, c'est former des jeunes comme vous, former les professionnels de demain à ces métiers-là, parce que comme je vous dis, c'est des métiers où on aura besoin de, j'aime pas le mot main-d'œuvre, en tout cas, besoin de professionnels aguerris et motivés pour continuer à accompagner nos anciens dans les meilleures conditions.
Le programme que vous venez d'entendre s'inscrit dans le projet Parcourir l'information pour mieux se l'approprier. Il a été élaboré au sein du lycée La Salésienne Don Bosco de Saint-Étienne par la documentaliste et l'enseignante de lettres et d'histoire-géographie en collaboration avec Radio Ondaine. Une action entièrement financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes.